Vous écoutez On lit pour vous.
Une technologie québécoise promet de tripler la production. Un texte d'Alain McKenna, paru le 15 juillet 2026 dans la presse. Réflectricité. Ce néologisme est une création de l'homme d'affaires québécois Louis Massicotte de Reflect 10, une jeune pousse qui tente ces jours-ci de séduire les producteurs d'énergie solaire d'Europe et d'Asie grâce à une technologie qui, dans certaines conditions, va jusqu'à tripler la production d'électricité des capteurs solaires actuellement en fonction. J'appelle ça réflectricité parce qu'on produit plus d'électricité à partir des reflets du soleil et des angles lumineux, explique Louis Massicotte à la presse. Contrairement à la plupart des avancées faites depuis 70 ans dans la technologie solaire, l'entrepreneur québécois dit ne pas avoir travaillé sur la chimie des panneaux solaires. « J'ai concentré mes efforts uniquement sur la physique, la géométrie. » Des efforts qui auront duré 7 ans et qui ont nécessité des millions de dollars d'investissement, précise-t-il. La technologie mise au point par Reflect 10 agit comme une surface réfléchissante intégrée au panneau solaire et qui réfléchit plusieurs fois les rayons du soleil. Cela offre aux photons davantage d'occasions d'atteindre les cellules photovoltaïques du panneau. Leur capacité de conversion des rayons solaires s'accroît sans nécessiter une plus grande surface de captage. La géométrie va transformer la perception sur les panneaux plats. J'espère qu'ils deviendront moins valorisés dans le futur, dit Louis Massicotte. Dans ses essais, Reflect 10 a presque triplé la production énergétique d'un panneau solaire dans des situations de faible ensoleillement ou quand les rayons du soleil atteignent le panneau de façon oblique. Cela accroîtrait de 20% la production quotidienne d'un panneau fixe exposé à une luminosité variable. Le même gain d'efficacité est observé pour des panneaux qui auraient une vue obstruée du soleil par des nuages ou par le smog urbain. À la bonne heure. La possibilité de tripler la production d'électricité à partir d'un soleil bas, dans le ciel, est cruciale, fait valoir Reflect 10, puisqu'elle permet de créer plus d'énergie à des moments de la journée où la demande en électricité est la plus forte, soit tôt le matin et en fin de journée ou en soirée. Pour ajouter du poids à son affirmation, l'entreprise québécoise a soumis sa technologie à des chercheurs de l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France et du Conseil national de recherche scientifique, CNRS, français, qui la confirme. La configuration de la réflectricité se révèle ainsi plus avantageuse que les panneaux plats en conditions d'illumination oblique, précisément aux heures de pointe de consommation électrique, le matin et en fin de journée, conclut Perret Roca y Cabarrocas, directeur scientifique de l'IPVF, et directeur de recherche CNRS à l'École polytechnique dans un rapport. Cette validation est cruciale, mais elle ne convainc pas tout le monde. Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, CEA, un organisme public de recherche scientifique français, a notamment déploré le manque de transparence de Reflect 10. Il souhaiterait que davantage de tests indépendants soient effectués avant de confirmer ces résultats. Louis Massicotte ne fait pas l'unanimité non plus. L'homme d'affaires a lancé en 2022 un projet de village géothermique dans Charlevoix, appelé Géolagon, et qui a suscité la controverse après que sa faisabilité et son impact environnemental aient été mis en doute par des experts. Coup de pouce à la lutte climatique. Bien que sa technologie promette un bond dans l'avancement de la technologie solaire qui équivaut à 111 ans de progrès industriel incrémental, Reflect 10 ne désire pas fabriquer elle-même ses propres capteurs. L'entreprise propose plutôt des licences d'utilisation aux principaux fabricants qui sont, pour la plupart, situés en Chine. Elle souhaiterait accorder 50 licences pour débuter, dont 20 qui sont réservées aux 20 plus importants fabricants de panneaux solaires dans le monde. L'agence de presse chinoise, contrôlée par l'État, a d'ailleurs couvert la publication des résultats de Reflect 10, signe de l'intérêt de la Chine envers sa technologie. Pas moins de 75% des panneaux solaires dans le monde sont fabriqués en Chine. Louis Massicotte dit vouloir ainsi accélérer le plus possible l'accroissement de la production mondiale d'énergie solaire sans avoir à ajouter un seul mètre carré de nouveaux panneaux solaires, afin de respecter un engagement pris en décembre 2023 par les pays qui ont participé à la conférence COP28 sur le climat de Dubaï. Cet engagement promettait de tripler la capacité mondiale en énergie renouvelable d'ici 2030. C'était important pour moi de préserver la propriété intellectuelle pour qu'elle ne soit pas influencée par des objectifs trimestriels comme ceux d'investisseurs privés, dit-il. Là, c'est le retour de l'espoir. On a une nouvelle occasion de contribuer à atteindre nos cibles climatiques. C'était « Une technologie québécoise promet de tripler la production », un texte d'Alain McKenna paru le 15 juillet 2026 dans la presse.
L'avion électrique semblait impossible. Cette batterie pourrait enfin changer la donne. Un texte de Edward Back, paru le 23 juin 2026 dans Futura Science. L'aviation électrique reste confrontée à un obstacle majeur, le poids des batteries. Un partenariat entre un fabricant taïwanais et une start-up européenne pourrait toutefois ouvrir la voie à une technologie capable de repousser les limites actuelles du secteur. Comment décarboner l'aviation? Voyager par les airs est l'un des modes de transport les plus polluants et s'il existe des pistes pour réduire l'empreinte carbone, les solutions concrètes manquent encore. Le passage à l'électrique pour les avions de ligne n'est pas viable pour l'instant car les batteries actuelles seraient trop lourdes. Des recherches portent aussi sur l'utilisation de l'hydrogène ou encore les carburants durables. Toutefois, de nouvelles batteries céramiques pourraient enfin offrir un nouvel espoir pour l'aviation électrique. Le constructeur de batteries taïwanais Prologium s'est associé à la start-up néerlandaise Helion Aircraft, spécialisée dans le développement d'avions électriques fonctionnant sur batterie. L'objectif est d'évaluer l'utilisation de batteries céramiques au lithium dans de grands avions de ligne. Objectif, 1000 km d'autonomie sans émissions. Les deux entreprises comptent collaborer sur le développement et l'intégration de cellules nouvelle génération dans des modules ou packs de batteries pour les avions. Le but est d'atteindre une densité énergétique de l'ordre de 320 à 420 watt-hours par kilogramme afin de permettre à de grands avions d'effectuer des trajets de 750 à 1000 km sur une seule charge. Ils pourront ensuite évaluer les avantages potentiels des technologies de batterie de nouvelle génération par rapport aux technologies conventionnelles, afin d'améliorer l'efficacité pondérale, de prolonger l'autonomie et d'accroître la flexibilité des missions pour les applications aéronautiques. L'année dernière, Prologium a dévoilé la première batterie céramique au lithium, entièrement inorganique et superfluidifiée, avec un électrolyte qui combine les avantages des matériaux solides, à savoir une haute concentration en ions, avec les propriétés de contact interfacial des liquides. Les deux entreprises espèrent que cette technologie aura une densité énergétique suffisante pour permettre à de grands avions de ligne de transporter des passagers sans utiliser de carburant, assurant ainsi des vols sans émissions de carbone. Cependant, les tests ne serviront pas exclusivement à vérifier les performances des batteries dans des avions électriques. Cette collaboration servira aussi à s'assurer qu'elles respectent des normes de sécurité. Les applications de l'aviation placent des exigences extrêmement strictes sur la densité d'énergie, la sécurité et l'optimisation de la masse des batteries, rendant indispensable une évaluation et une validation minutieuse et rigoureuse, a déclaré Vincent Yann, fondateur de Prologium. Cette collaboration souligne aussi l'intérêt du fabricant taïwanais pour les entreprises innovantes européennes. Pour assurer la durabilité de l'aviation électrique, les deux firmes comptent évaluer l'approvisionnement local et les capacités de fabrication en Europe. Si les tests sont concluants, le vieux continent pourrait donc se retrouver au premier plan d'une révolution de l'aviation verte. C'était l'avion électrique semblait impossible, cette batterie pourrait enfin changer la donne, un texte de Edward Back, paru le 23 juin 2026 dans Futura Science.
Temps d'écran. 5 applis pour reprendre le contrôle. Un texte de Maxime Johnson paru le 9 juin 2026 dans Curium. Abat le scroll infini sur les réseaux sociaux. Voici 5 outils efficaces pour décrocher, enfin, des écrans. 1. Le traditionnel. Êtes-vous prêt pour un solide reality check? Les fonctionnalités intégrées temps d'écran sur iOS et bien-être numérique et contrôle parental sur Android mesurent chaque minute passée sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Pour limiter les minutes passées dans une application précise, allez dans les paramètres de votre appareil. 30 minutes top chrono sur Instagram, pas plus. Un bon début, mais les adeptes plus coriaces contourneront facilement les paramètres. 2. Le cheerleader. Il suffit parfois de peu pour convaincre les automatismes. Screen Zen repousse de quelques secondes l'ouverture de certaines applications en affichant un message du genre « Est-ce important ?» Parfait pour vous inciter à remettre en question votre utilisation. Cette application gratuite vous envoie aussi des messages pour vous motiver à atteindre vos objectifs. Bravo, vous n'avez ouvert TikTok que 2 fois aujourd'hui. 3. Le stylisé. Pour réduire votre temps d'écran, rendez votre téléphone moins attrayant. Un truc facile, éliminez les couleurs qui captent votre attention en activant l'affichage en niveau de gris. Écran ennuyant, bonjour. Sur un appareil iOS, activez la fonctionnalité en allant dans Réglages, Accessibilité, Affichage et taille du texte, Filtre de couleur, Niveau de gris. Sur un appareil Android, la marche à suivre varie d'un modèle à l'autre, mais elle devrait ressembler à ceci. Paramètres, Accessibilité, Couleur et mouvement, Correction des couleurs, Nuances de gris. Le mode nuance de gris peut aussi être programmé automatiquement dans le mode couché de la fonctionnalité bien-être numérique et contrôle parental. 4. L'adorable. Besoin de douceur et de mignon? Essayez Cat Gatekeeper. Cet outil est l'équivalent numérique d'un chat qui se couche sur votre livre lorsqu'il est en manque d'attention. Gratouille, s'il vous plaît. Cette extension pour le navigateur Chrome, offerte en anglais seulement, vous permet d'instaurer une limite de temps pour différents sites, comme un jeu ou un service de vidéodiffusion. Une fois la limite atteinte, un gros chat orange, virtuel, faut-il le rappeler, s'installe dans votre écran d'ordinateur pour vous rappeler de prendre une pause. 5. L'artillerie lourde. Votre amour des écrans est intense. Seul un obstacle de taille pourrait vous empêcher de doom-scroller. Peut-être vous faut-il un appareil physique comme Brick qui est relié à une application sur votre téléphone Android ou iOS. Brick bloque les logiciels ou les catégories d'applis de votre choix pour une période donnée. Par exemple, vous pouvez bloquer l'accès aux réseaux sociaux après 19 heures ou restreindre votre accès uniquement aux applications essentielles comme le téléphone de 8 heures à 16 heures en semaine. Pour débloquer une application en cas d'urgence ou lors d'une envie incontrôlable de consulter Instagram, vous devrez coller la petite brique physique sur votre téléphone. Une tâche facile à accomplir, mais qui vous incitera néanmoins à y réfléchir à deux fois avant de regagner l'accès à vos applis chéries. Vous pouvez aussi laisser la brique à la maison ou même à une personne de confiance pour vous forcer à respecter vos objectifs. D'autres solutions similaires, un peu moins dispendieuses, existent, comme la carte Bloom. C'était temps d'écran, 5 applis pour reprendre le contrôle. Un texte de Maxim Johnson paru le 9 juin 2026 dans Curium.
L'aliment économique qui réduit l'hypertension. Un texte de Megan Tanguay, paru le 12 juin 2026 dans Coup de pouce. Les légumineuses n'ont rien de nouveau dans l'assiette, mais elles continuent de susciter l'intérêt des chercheurs. Une nouvelle analyse internationale s'est penchée sur leur lien avec la pression artérielle en s'intéressant à des données recueillies pendant plusieurs années et dans différents pays. Ajouter des légumineuses à vos repas pourrait réduire votre risque d'hypertension. Les haricots, les lentilles et autres légumineuses font régulièrement l'objet d'études en nutrition, notamment pour leur rôle potentiel sur la santé cardiovasculaire. Une analyse récente, basée sur plusieurs études observationnelles, s'est intéressée à leur lien avec l'hypertension. Pour y parvenir, les chercheurs ont regroupé les données de plusieurs travaux menés à grande échelle, incluant des participants provenant des différentes régions du monde. L'objectif était d'observer si la consommation de légumineuses pouvait être associée à des variations du risque d'hypertension au fil du temps. Les résultats montrent une tendance. Les personnes qui consomment davantage de légumineuses présentent un risque plus faible de développer de l'hypertension que celles qui en mangent peu. Ce lien est également observé avec certains produits à base de soja, comme le tofu. La quantité consommée semble aussi jouer un rôle. Les analyses suggèrent qu'une consommation plus élevée est associée à une réduction progressive du risque jusqu'à un certain niveau. Dans certaines observations, l'écart entre les groupes les plus faibles et les plus élevés peut atteindre environ 30 %. Ces données doivent toutefois être interprétées avec prudence. Les études analysées sont observationnelles, ce qui signifie qu'elles permettent d'identifier des associations sans établir de lien direct de cause à effet. D'autres facteurs liés au mode de vie peuvent aussi influencer les résultats. Plusieurs éléments peuvent néanmoins expliquer cette relation. Les légumineuses sont riches en fibres, en potassium et en magnésium, des nutriments souvent associés à une meilleure régulation de la pression artérielle. Elles s'inscrivent aussi dans des habitudes alimentaires généralement plus équilibrées. C'était L'aliment économique qui réduit l'hypertension, un texte de Megan Tanguay, paru le 12 juin 2026, dans Coup de pouce.
Faits et chiffres, le leadership et la participation des femmes à la vie politique, un texte de la rédaction, paru le 11 mars 2026 sur le site ONU Femmes. La participation équitable et le leadership des femmes dans la vie politique et publique sont essentiels pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. Et pourtant, les données indiquent que les femmes sont sous-représentées à tous les niveaux du pouvoir décisionnel à travers le monde et que la parité entre les sexes est encore loin d'être atteinte dans la vie politique. Les femmes dans les postes à haute responsabilité de l'État. À partir du 1er janvier 2026, il y a 28 pays où 30 femmes sont chefs d'État et ou de gouvernement. Au rythme actuel, il faudra 130 ans pour que la parité dans les décisions politiques du plus haut niveau soit atteinte. Seulement 16 pays ont une femme comme chef d'État. Et seulement 21 pays ont une femme comme chef de gouvernement. Données compilées par ONU Femmes montrent que les femmes représentent 22,4% des membres de cabinet à la tête de ministères dirigeant un domaine politique au 1er janvier 2026. Il n'y a que 14 pays dans lesquels les femmes occupent 50% ou plus des postes de ministres à la tête de domaines politiques. Les portefeuilles les plus couramment détenus par les femmes ministres sont les suivants : femmes et égalité des sexes, puis famille et enfance, et inclusion sociale et développement. Les femmes dans les parlements nationaux : seulement 27,5% de tous les parlementaires nationaux sont des femmes, rapport à 11% en 1995. Seulement 7 pays comptent 50% ou plus de femmes au Parlement dans les chambres uniques ou basses : Rwanda, 64%, Cuba, 57%, Nicaragua, 55%, Bolivia, 51%, Andorre, Mexique et Émirats arabes unis, tout à 50%. 23 autres pays ont atteint ou dépassé 40%, dont 10 pays en Europe, 6 en Afrique, 5 en Amérique latine et aux Caraïbes, et 2 en Asie-Pacifique. Au niveau mondial, il y a 21 États dans lesquels les femmes représentent moins de 10% des parlementaires dans les chambres uniques ou basses, dont 3 chambres basses qui ne comptent aucune femme. Au rythme actuel, la parité entre les sexes dans les instances législatives nationales ne sera pas atteinte avant 2063. Les femmes occupent 37% des sièges parlementaires en Amérique latine et dans les Caraïbes et représentent 33% des parlementaires en Europe et en Amérique du Nord. L'Afrique subsaharienne compte 27% de femmes parlementaires, suivi de l'Asie de l'Est et du Sud-Est avec 24%, de l'Océanie avec 21%, de l'Afrique du Nord et de l'Asie occidentale avec 18,5% et de l'Asie centrale et méridionale avec 17,5% de femmes parlementaires. Les femmes dans l'administration locale. Les données de 147 pays indique que les femmes constituent plus de 3 millions, 36%, des membres élus dans les organes de délibération locaux. Seulement 2 pays ont atteint 50%. Et 29 autres pays comptent plus de 40% de femmes au sein de l'administration locale. Des variations régionales sont également notées pour la représentation des femmes dans les organes délibérants locaux en janvier 2025. Asie centrale et du Sud, 41%. Europe et Amérique du Nord, 37%. Océanie, 35%. Asie de l'Est et du Sud-Est, 31%. Amérique latine et Caraïbes, 31%. Afrique subsaharienne, 26%. Afrique du Nord et Asie occidentale, 19%. Élargir la participation. La participation équilibrée à la vie politique et le partage du pouvoir entre les femmes et les hommes dans les prises de décision sont l'objet d'un consensus international fixé dans la Déclaration et le Programme d'action de Beijing. Si la plupart des pays du monde n'ont pas atteint la parité entre les sexes, les quotas de femmes ont largement contribué aux progrès réalisés au fil des ans. Dans les pays où des quotas de candidats sont prévus par la loi, la représentation des femmes est supérieure de 5 et 7 points de pourcentage dans les parlements et les collectivités locales, respectivement, par rapport aux pays qui ne disposent pas d'une telle législation. Il est de plus en plus clair et établi que le leadership des femmes dans les processus décisionnaires politiques les améliore. Par exemple, des recherches sur les panchayat, conseils municipaux en Inde, ont révélé que le nombre de projets d'eau potable dans les régions où les conseils municipaux étaient dirigés par des femmes était supérieur de 62% à celui des régions où les conseils municipaux étaient dirigés par des hommes. En Norvège, une relation causale directe a été déterminée entre la présence de femmes au sein des conseils municipaux et la couverture de garderies. Les femmes font preuve de leadership politique en travaillant au-delà des lignes de parti par le biais de caucus de femmes parlementaires, même dans les environnements les plus combatifs sur le plan politique, et en défendant les questions d'égalité des sexes, telles que l'élimination de la violence basée sur le genre, le congé parental et les services de garde d'enfants, les pensions, les lois sur l'égalité des sexes et la réforme électorale. C'était Faits et chiffres, le leadership et la participation des femmes à la vie politique, un texte de la rédaction, paru le 11 mars 2026, sur le site ONU Femmes.